La lettre à Diognète ou l'épître à Diognète, c'est un des textes les plus anciens et les plus célèbres de la littérature chrétienne. Il a été daté avec certitude du 2e siècle de notre ère. Mais c'est plus tardivement, c'est au début du 15e siècle qu'on l'a retrouvé à Constantinople. L'histoire dit même qu'on l'a retrouvé dans une poissonnerie. Ensuite, il a voyagé et finalement, c'est un savant français, un imprimeur, fils d'imprimeur, père d'imprimeur, Henri Étienne, un philologue magnifique qui l'a lui-même découvert à son tour à la fin du XVIe siècle, en 1592, à l'abbaye de Münster, et qu'il a publié, et depuis il est devenu extrêmement célèbre, un texte de référence sur les chrétiens dans le monde. C'est un texte assez court, vous le retrouverez facilement sur Internet, facile à lire, qui est magnifique comme programme de vie, extrêmement simple, magnifique, et surtout qui est non seulement profondément catholique, mais anticommunautariste, dans l'acception la plus négative du terme, qui commence ainsi. Les chrétiens ne se distinguent des autres hommes ni par le pays, ni par le langage, ni par les coutumes. Ils n'habitent pas de ville qui leur soit propre, ils n'emploient pas quelques dialectes extraordinaires, leur genre de vie n'a rien de singulier. Ils se conforment aux usages locaux pour les vêtements, pour la nourriture, pour tout le reste de l'existence, tout en manifestant les lois extraordinaires et vraiment paradoxales de leur manière de vivre, telles que celles que nous venons d'entendre dans le passage d'évangile de ce dimanche, ces lois extraordinaires, aimer Dieu plus que sa propre famille, que ses propres parents, que ses propres enfants, aimer Dieu plus que sa propre chair, tout en ne se distinguant absolument pas de nourriture particulière, pas de costume, en apparence extérieurement rien. Et d'ailleurs, la lettre poursuit, ils s'acquittent de tous leurs devoirs de citoyens. Ils respectent les lois de leur pays. Ils se marient comme tout le monde, ils ont des enfants. Mais ils n'abandonnent pas leur nouveau-né. Il faut dire que la pratique était courante, là on est au 2e siècle, mais même bien avant le Christ, pratique courante et parfaitement légale, de faire ce qu'on voulait du nouveau-né, des bébés. Et plutôt que de le tuer, lorsque les parents étaient dans les misères, n'avaient pas de quoi le nourrir, ou lorsqu'il semblait atteint de quelques malformations, il y avait quand même une voix qui parle au cœur de toute conscience, pas de toute conscience, mais une voix de la conscience, qui faisait qu'il y a eu cette pratique qui s'était répandue même avant le Christ, qu'on appelle l'exposition, d'exposer le bébé qu'on ne voulait pas garder. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on le déposait dans un lieu passant, discrètement, on le posait là, et on espérait qu'il y aurait quelques braves gens qui le récupéreraient et qui le sauveraient. Et puis ensuite, au fur et à mesure des siècles, et c'est resté très largement incrusté dans notre mémoire, l'usage a été de le laisser aux portes des églises. Parce que l'Église s'est toujours occupée de l'accueil de la vie. C'est le message du Christ, la priorité aux tout-petits. Et pendant des siècles, l'Église a non seulement été inventive, leader, s'en est chargée, il a fallu attendre dans notre pays la Révolution française pour qu'il y ait un tout petit début, un embryon d'assistance publique qui s'est développé progressivement pour que l'État prennent les choses en main, pour que les questions soient réglementées, même aujourd'hui sérieusement réglementées, par l'État qui a depuis, et en fait très récemment, ça fait un demi-siècle, fixé un critère qui est à la fois un critère objectif et un critère économique, la sortie du ventre de la mère. Le bébé, aux yeux de l'État, aux yeux du monde, en tout cas aux yeux de l'État dans notre pays, ne dispose d'aucun droit tant qu'il n'est pas né. Et dans cette histoire dramatique de cet accident, il y a quelques semaines, où une mère enceinte avait été terriblement blessé. On s'est bien gardé, tout le monde faisait très attention à ne pas parler du bébé comme d'un enfant. Pourtant, il y a ce paradoxe aujourd'hui que si une malheureuse tue son enfant de quelques jours, c'est un infanticide et elle est poursuivie. À quelques jours près, plutôt quelques semaines près, la disparition, la suppression in utero peut être très largement prise en charge par l'État. L'opinion publique contemporaine, ce qu'on appelle la doxa, la loi et l'opinion publique considèrent aujourd'hui que l'enfant à naître fait partie du corps de la mère, qui en dispose exactement de la même façon que les parents disposaient de leur enfant il y a 2000 ans, avec droit de vie et de mort. Nous croyons et nous affirmons que Dieu seul est maître de la vie. Dieu seul est le maître de la vie. Et ce 2 juillet particulièrement, jusqu'en 1970, c'était la fête de la Visitation. Et que se passe-t-il au jour de la Visitation? Deux mères, la Vierge Marie, Marie, Élisabeth, affirment l'une et l'autre la conscience que leur enfant qu'elles portent en leur sein ont déjà à l'intérieur d'elles-mêmes. Elles affirment d'une certaine façon ce que nous croyons, à savoir que l'embryon a une âme douée de conscience et de volonté. Une âme même immortelle, créée par Dieu. Et ses parents le retrouveront après leur mort. La mission des catholiques, c'est d'aider les parents, d'aider les familles à accueillir la vie en dépit de toutes les difficultés, de toutes les angoisses, de toutes les incertitudes, de toutes les pressions. Lorsque j'étais à Saint-Louis-d'Antin, il y a une quinzaine d'années, j'étais curé de Saint-Louis-d'Antin et j'avais réuni toutes les associations catholiques qui œuvrent dans ce domaine d'accueil de la vie. Elles étaient plus d'une trentaine, elles étaient une quarantaine. C'est la première fois qu'elles se réunissaient. Et j'étais vraiment pour chacune admiratif de leur engagement, de leur action. Et ensuite, également consterné par leur mauvaise relation entre elles. Ce qui est tout à fait le paradoxe, qui est un paradoxe que nous connaissons bien, comment avoir un engagement aussi fort, aussi conforme à l'Évangile, et aussi peu de charité entre nous. Mais concerné encore plus par l'absence totale de soutien de la part de la hiérarchie de l'Église. Pourquoi? Parce que les catholiques de notre pays, dans leur immense majorité, ne voient pas ou ne voient plus où est le problème. Dans l'obscurcissement actuel des consciences, c'est la prière d'ouverture de ce dimanche, de pouvoir effectivement être délivré des ténèbres de l'erreur. La façon dont la chose s'est répondue, où tout le monde dit, à partir du moment où la loi, à partir du moment où la loi et la science le permettent, où est le problème? Y compris à l'intérieur même de notre pratique. La plupart d'entre eux ne voient pas plus le problème qu'il y a à aller à la messe seulement quand on en a envie, à venir prendre l'hostie, communier sacramentellement, même si on n'est pas confirmé, même si on ne va jamais se confesser, même si on ne vient qu'épisodiquement. Où est le problème? Le problème est tout ce qui touche au sacré. Et ce que nous vivons aujourd'hui va nous rappeler dans un proche avenir de façon très forte que nous ne pouvons pas vivre ensemble quand il n'y a plus aucun respect de ce qui est sacré. Le sacré de la vie comme don de Dieu, Je ne vous parlerai pas des conséquences possibles de l'avortement. Malgré tous les témoignages, malgré tout ce que j'ai vu, constaté depuis 20 ans. Je ne vous en parlerai pas parce que c'est interdit. C'est illégal. Ça s'appelle un délit d'entrave. Alors même qu'il n'existe aucune étude sérieuse et rigoureuse sur le sujet. Aucune. Mais c'est un tabou, un interdit. La foi catholique nous commande d'être ouvert à Dieu et ouvert à la vie. Et dans cette ouverture à la vie, de ne pas séparer l'union et la procréation, ce qui n'est pas une lecture irresponsable du commandement de l'origine, soyez féconds et multipliez-vous. C'est simplement la certitude que le corps, la sexualité sont des dons de Dieu, sont sacrés. Exactement au contraire de la mentalité contemporaine qu'on qualifie à juste titre de mentalité contraceptive, dont un des slogans, un enfant quand je veux, est malheureusement démenti par la réalité. L'histoire dans la première lecture de cette femme qui souffrait de ne pas pouvoir avoir un enfant pour pouvoir relire le texte, même le prophète n'y avait pas fait attention, il a fallu que son serviteur lui dise, lui montre. Cette histoire d'infécondité, elle est aussi douloureuse que toujours actuelle. La réalité, c'est un enfant, pas toujours quand je veux, et pas toujours comme je veux. Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne. Voilà la prière du Christ. Non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. Voilà la prière de Jésus au moment de donner sa vie. Ça devrait être notre prière de tous les jours, de chaque baptisé. La prière de tous les couples, de tous les parents. La prière avant la venue de l'enfant, pendant toute son éducation. Non pas ma volonté, Seigneur, la tienne. Alors oui, la décision d'accueil revient à la conscience de chacun. C'est notre bien le plus précieux. Nous avons simplement cette responsabilité de l'éclairer, de la nourrir, de l'ouvrir. Mais cette décision revient à la conscience de chaque personne. C'est notre trésor, notre conscience. C'est là où le Seigneur nous parle cœur à cœur, jusqu'au jour où nous le verrons face à face. Et il dira à ceux qui ont choisi d'accueillir la vie, envers et contre tout, et aujourd'hui contre tous, un enfant handicapé qui aura bouleversé leur vie, qui a perdu sa vie à cause de moi, la gardera. Le Christ nous a dit, prévenu, il nous le répète encore aujourd'hui, ce que vous aurez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'aurez fait.